Chapitre 3. À la chapelle Sixtine. Je dois maintenant conter l'histoire d'une des plus belles et puissantes pages de l'art, la plus sublime peut-être, qu'un homme ait composée, la décoration de la voûte de la chapelle Sixtine. Déjà en cette année 1508, Raphaël commençait la peinture des stanze du Vatican. Les ennemis de Michel-Ange, en tête desquels marchait un homme de génie, Bramante, l'architecte du pape et l'ami de Raphaël, tramèrent le véritable complot de perdre le grand sculpteur dans l'esprit de Jules II, auprès duquel ils revenaient, à leur gré, trop en faveur. Ils conseillèrent donc au pape, avec l'espoir que Michel-Ange échouerait dans sa tentative, de lui confier la tâche de peindre la voûte de la chapelle Sixtine. Michel-Ange, devant cette épreuve, qui n'était point de son art familier, se récusa d'abord avec énergie. Puis il proposa généreusement à sa place Raphaël, qu'il savait agréable à Bramante, et par conséquent aussi à Jules II. Mais, encore une fois, il n'était qu'un sujet. Devant l'obstination du maître, il dut s'incliner. Cependant, il connaissait trop bien les hommes pour ne pas apercevoir l'arrière-pensée malicieuse de ses ennemis qui allaient dans son entreprise guetter ses défaillances. Condive y déclare que Bramante était poussé à nuire à Michel-Ange par jalousie d'abord et ensuite par la crainte qu'il avait du jugement de Michel-Ange, lequel découvrait sans peine ses fautes. Bramante, comme chacun sait, était adonné au plaisir et grand dissipateur. Le traitement qu'il touchait à la caisse du pape, si élevé qu'il fût, ne lui suffisait pas. Il chercha à gagner sur ses travaux en faisant bâtir ses murs en mauvais matériaux d'une incomplète solidité. On peut aisément le constater dans ses constructions de Saint-Pierre, du corridor du Belvédère, du cloître de Santo Pietro et de Vinarle, etc., qu'il a été indispensable de soutenir récemment par des crampons et des contre-boutants parce qu'elles tombèrent ou seraient tombées en peu de temps. Michel-Ange n'hésite pas à englober dans la même hostilité contre sa personne Raphaël. « Toutes les difficultés, écrit-il en octobre 1542, survenues entre le pape Jules II et moi, sont le fait de la jalousie de Bramante et de Raphaël. » Il cherchait à me perdre, et vraiment, Raphaël en avait bien sujet, car ce qu'il savait de là, c'était de moi qu'il le tenait. Enfin, Bramante, que le sculpteur accusait sans ménagement d'avoir commis des erreurs volontaires dans ses œuvres et des malversations dans ses comptes, édifia pour lui, dans la chapelle, sur ordre du pape, un échafaudage. Michel-Ange ne se montrait pas. Farouche, comme toujours, il travaillait avec fièvre au dessin de son œuvre. Lorsqu'il les eut terminées, il voulut d'abord, non sans défi, les montrer à l'un de ses ennemis, l'un des complices de Bramante, Julien de Sangallo, et les soumettre à son appréciation. Sangallo, devant la supériorité merveilleuse des projets de Michel-Ange, dut manifester son admiration. Il estima le travail à la somme de 15 000 ducats, et le contrat fut conclu incontinent. Michel-Ange, tout de suite, entra dans la Sixtine, où se trouvaient déjà Jules II et Bramante. L'échafaudage que celui-ci avait édifié, il le trouva détestable et n'hésita point à exprimer, sur un ton de raillerie hautaine, ses reproches au perfide architecte. « Vos cabestans, lui dit-il, soutiennent le plancher mobile sur lequel je dois travailler, c'est bien. » Mais les trous énormes que vous avez creusés dans la voûte ? Parlez, ils sont indispensables. Non, d'abord, comment les boucherez-vous lorsque mes peintures seront achevées ? N'ayez point d'inquiétude, on s'arrangera. Oui, à mes dépens. Attendez donc. Tandis que Bramante haussait de dédain ses fortes épaules, Michel-Ange, avec une autorité impérieuse, devant le pape étonné, s'adressa brusquement au maître charpentier. « Maître, commanda-t-il, tu vas démolir tout cet échafaudage, tu prendras ces cordes et tu les vendras à ton profit. » Le pape, déconcerté de plus en plus, protesta. Bramante, cependant, connaît son métier. « Pas autant que je le souhaite, voici ce qu'il faudra faire. » Et avec sa fougue habituelle, il expliqua les conditions du mécanisme ingénieux et simple qu'il avait imaginé dans sa retraite. Il affirma la possibilité de construire son échafaud au moyen de contre-fiches détachées des murs. Dans le travail d'édification nouvelle, on suivit en effet ces plans. Et depuis lors, c'est sur ce modèle qu'ont été construits tous ces grands ouvrages. Il fit venir de Florence quelques-uns de ses anciens condisciples de l'atelier de Ghirlandaio, Jacques de Sandre, Ange de Donino, Bouillardini, Granacci, enfin les peintres les plus connus pour leur habileté dans la pratique de la fresque. Il les fit monter sur l'échafaud et leur livra un pan de muraille. « Travaillez à votre aise, leur dit-il. Vous êtes au courant de la besogne qui m'a été commandée. Je n'ai donc pas de conseils à vous donner, j'aurai plutôt à en recevoir de vous, moi qui suis un ignorant. Lorsque vous aurez recouvert ce mur de vos peintures, je viendrai les examiner. » Ce ne fut pas sans un grand malaise qu'ils se mirent au travail. Et leur anxiété dura plusieurs jours, sous la surveillance de Michel-Ange, qui ne souffrait chez eux aucun repos. Un beau matin, il les mit tous à la porte comme incapables. Il fit effacer tout ce qu'ils avaient peint. Il s'enferma dans la chapelle et, refusant d'ouvrir à ses aides, il ne se laissa plus voir, même dans sa maison. Quand ils furent las d'attendre, ils se décidèrent à retourner à Florence, profondément humiliés. Il resta donc seul, avec quelques manœuvres. Il se lamenta pourtant encore au sujet de l'insuffisance de l'un d'eux, qui n'est bon qu'à se faire servir. « Cette occupation me manquait sans doute, je n'en avais pas assez. Il me rend malheureux comme une bête. » Il allait à la chapelle dès la pointe du jour, en sortait à la nuit close, souvent y dormait tout habillé sur les échafauds. Pendant près d'un an et demi, ce fut la fièvre merveilleuse et ardente de tout cet être que le feu du génie tourmentait chaque jour, et une joie farouche de ses mains et de ses yeux cherchant dans le recueillement religieux de la solitude un monde palpitant des émotions du désir, de l'angoisse et de l'épouvante, un monde que, de la source prodigieuse de son âme, il jetait avec effusion sur les murs et que les clartés de son pinceau animaient d'une vie immortelle. Il souffrit du labeur orgueilleux de ses efforts vers la création d'une œuvre qu'il eût voulu plus grande encore que ne le permettaient les moyens matériels mis à la disposition de l'homme. « Je suis dans un profond abattement d'esprit », écrit-il à son père en janvier 1509. « Il y a maintenant un an que je n'ai pas reçu un gros du pape. Je ne lui demande rien parce que mon œuvre n'avance pas assez pour me paraître mériter une rémunération. Cela tient à la difficulté du travail et à ce que ce n'est point là ma profession. Ainsi, je perds mon temps sans résultat. Dieu m'assiste. » Devant des difficultés qu'il n'avait pas prévues, il songea un moment à tout abandonner. Ses couleurs, encore fraîches, se couvraient d'une moisissure dont il ne pouvait découvrir la cause. « J'avais bien averti votre sainteté, dit-il au pape, que la peinture n'était pas mon art. Tout ce que j'ai fait est perdu. Si vous ne me croyez pas, chargez quelqu'un de venir le voir. » Julien de Sangallo reconnut que Michel-Ange employait un mortier trop humide. Celui-ci, l'accident pouvant être désormais évité, reprit son ouvrage. Et sa famille, au lieu de l'exhorter dans sa lutte contre la matière qu'il n'assouplissait pas à son gré, le harcelait de demandes d'argent, d'accusations grotesques d'ingratitude et d'égoïsme. De sorte qu'il devait, lui, dans la fièvre de ses visions, dans les affres de son intelligence, donner au sien une raison qu'il ne pouvait garder paisible. « Ne vous agitez pas, écrivait-il à son père, je ne vous laisserai jamais manquer de rien, aussi longtemps que j'aurai moi-même quelque chose. Si vous ne pouvez pas, comme d'autres, avoir les honneurs de ce monde, qu'il vous suffise d'avoir votre pain. Vivez avec Christ, bon et pauvre, comme je fais ici, car je suis misérable et je ne me tourmente ni pour la vie ni pour l'honneur, c'est-à-dire pour le monde. Je vis dans de très grandes peines et dans une défiance infinie. Depuis 15 ans, je n'ai pas eu une bonne heure. J'ai tout fait pour vous soutenir et jamais vous ne l'avez reconnu ni cru. Dieu vous pardonne à tous. Je suis prêt, dans l'avenir, aussi longtemps que je vivrai, à toujours agir de la même façon, pourvu seulement que je le puisse. » Ses trois frères venaient bravement s'installer chez lui à Rome. Il achetait pour Buonarrota et pour Giovan Simone un fonds de commerce. Pour Gismondo, des terres près de Florence. Et cela d'ailleurs sans les satisfaire. Même ses frères, bien loin de montrer quelque douceur, sinon de l'humilité, manifestaient envers leur père, puisqu'ils ne le pouvaient directement envers Michel-Ange, une brutalité lâche. Michel-Ange, avec la fougue de sa nature hautaine, les morigéna d'importance. Il écrivit à Giovan Simone « On dit que ce qui fait du bien au bon rend meilleur, mais que les bienfaits rendent méchant le plus méchant. Voici bien des années que je cherche, avec d'affectueuses paroles, des manières indulgentes, à te ramener à une vie honnête et en paix avec ton père, ainsi qu'avec nous autres. Or, tu es toujours pire. Je pourrais te parler longuement, mais ce seraient des mots. Pour en finir, sache avec certitude que tu ne possèdes rien au monde, puisque c'est moi qui te donne les moyens de vivre par amour de Dieu et parce que je croyais que tu étais mon frère comme les autres. Maintenant, je suis certain que tu n'es pas mon frère, car si tu l'étais, tu n'aurais pas menacé mon père. Tu es plutôt une bête, je te traiterai donc comme une bête. Sache que, qui voit son père menacé ou maltraité, a le devoir d'exposer sa vie pour lui. Enfin, assez là-dessus. Je te dis que tu ne possèdes rien au monde. Si j'entends seulement la moindre plainte à ton propos, je viendrai t'apprendre à dilapider ton bien, à mettre le feu à la maison et au domaine que tu n'as pas gagné. Si je viens de ton côté, je te montrerai des choses qui te feront pleurer des larmes brûlantes et connaître sur quoi tu appuies ton arrogance. Si tu veux, au contraire, t'appliquer à bien agir envers ton père, je t'aiderai comme les autres et, sous peu, je te procurerai une bonne boutique. Rien de plus. Où les paroles me manquent, je supplierai par des faits. Corps du Christ, je suis homme à mettre en pièces 10 000 de tes semblables si cela est nécessaire. Sois sage, ne pousse pas à bout quelqu'un qui a bien autrement de passion que toi. » Il écrit encore à Gismondo. « Je vis ici dans la détresse, dans une grande fatigue de corps. Je n'ai aucun ami d'aucune espèce et je n'en veux pas. Il y a bien peu de temps que j'ai de quoi manger à mon gré. Cessez de me causer des tourments, je ne pourrai plus en supporter une once. » Son troisième frère, Buonarroto, pousse l'arrogance jusqu'à lui reprocher de l'avoir, ce qui est faux, assisté de son bien. Michel-Ange, outré des audaces de cet envieux, lui répondit « Si tu avais assez d'intelligence pour reconnaître la vérité, tu ne dirais pas « j'ai dépensé tant du mien » et tu ne serais pas venu m'agacer jusqu'ici pour tes affaires. Tu aurais dit « Michel-Ange sait ce qu'il nous a écrit, s'il ne le fait pas maintenant, c'est qu'il doit en être empêché par quelque chose que nous ne savons pas. Soyons patients. » Quand un cheval court autant qu'il peut, il n'est pas bon de lui donner de l'éperon pour qu'il court encore plus qu'il ne peut. Mais vous ne m'avez jamais connu et vous ne me connaissez pas. Dieu vous pardonne. C'est lui qui m'a accordé la grâce de suffire à tout ce que j'ai fait pour vous aider. Vous ne le reconnaîtrez que quand vous ne m'aurez plus. » Cependant, au milieu de ses souffrances, il travaillait toujours. Le mystère dont il s'entourait depuis 20 mois excitait vivement la curiosité publique. Un jour, Jules II lui ayant demandé à quelle date, au moins approximativement, son ouvrage serait terminé, Michel-Ange répondit avec sa fermeté ordinaire « Quand je pourrai. » « Quoi ? Quand je pourrai ? Quand je pourrai ?» Le pape en courroux le frappa de son bâton. Michel-Ange s'enfuit chez lui afin de préparer son départ de Rome. Jules II dut, par un messager, lui envoyer bien vite 500 ducats et lui présenter des excuses. Michel-Ange consentit à pardonner. Seulement, le lendemain, ce fut une querelle pareille, et puis, les jours suivants, Jules II, dans son impatience, le menaça. « Tu as donc envie que je te fasse jeter en bas de ton échafaudage ?» Michel-Ange dut céder de nouveau, et le matin de la fête de la Toussaint, 1er novembre 1509, la chapelle Sixtine fut ouverte au public. Rome entière, dit Vasari, s'y précipita. Jules s'y porta le premier, avant que la poussière produite par la chute des échafauds fût tombée, et le même jour, il y célébra la messe. Bramante, déçu dans ses prévisions d'un échec de l'artiste, essaya d'engager le pontife à confier à Raphaël la seconde moitié de la chapelle. Le pape, malgré ses faiblesses envers Bramante, ne se laissa pas ébranler dans ses résolutions, et Michel-Ange reprit ses peintures de la voûte. Mais il avait entendu contre lui la rumeur des cabales. Il eut, dans le fond de sa dignité, un remous de colère. Et, sans doute, la froideur qui exista désormais entre lui et Raphaël date de cette époque. Pour commencer la seconde partie de la voûte, il s'enferma de nouveau et, pendant des mois, caché comme le ver à soie dans son cocon. L'ouvrage exigea 4 années d'efforts continus. Il fut achevé vers la fin de 1512. Néanmoins, Michel-Ange n'en était pas satisfait. Il eût voulu donner à sec quelques retouches. Mais les échafauds étaient démontés et il estima sans importance ce qui manquait encore à ses figures. « Il faudrait leur mettre un peu d'or, lui dit le pape. Ma chapelle paraîtra bien pauvre. »« Ce que j'ai peint là, répliqua l'artiste, était de pauvres gens. » Il est difficile, sinon impossible, de donner avec des mots la description exacte et complète de cette œuvre. Nombreuse de figures, de scènes, de paysages, elle impressionne l'imagination plus que ne peuvent le faire les plus tragiques drames de la réalité de l'histoire. J'essaierai d'en indiquer l'intention et l'expression en prenant pour guide 4 mères de Quincé. On peut considérer toute la région supérieure de la chapelle comme étant composée de 3 parties. La sommité de la voûte, divisée par Michel-Ange en 11 compartiments, les 12 pendentifs, les parties circulaires inscrites au-dessous dans les espaces qui surmontent les fenêtres. À partir du dernier espace de la sommité de la voûte, en manière de pendentif, où est représenté Jonas, on voit se développer sur toute la longueur du plafond une suite de tableaux représentant le Père éternel se balançant dans les airs, le Père éternel accompagné de petits anges et chassant le chaos, l'homme créé recevant de Dieu la connaissance et le sentiment, Adam endormi et la femme tirée de la côte de l'homme remerciant son créateur, l'arbre de la vie et le serpent alentour tendant le fruit défendu à Ève qui, assise auprès de l'arbre, l'offre à son époux, l'ange qui chasse du paradis terrestre Adam et Ève, le sacrifice de Noé, le déluge, l'ivresse de Noé. Aux 2 extrémités de la voûte se trouvent d'un côté David terrassant Goliath, Judith venant de couper la tête à Holoferne, de l'autre le serpent d'airain et le supplice d'Aman. Dans chacun des 12 pendentifs se trouve une figure colossale. Les 5 sibylles, Lilica, Cuméa, Delphica, Érythréa, Persica, les 7 prophètes, Jérémie, Ézéchiel, Joël, Jonas, Daniel, Isaïe, Zacharie. Enfin, les parties circulaires, inscrites au-dessus des fenêtres, et les compartiments angulaires de la voûte sont remplis par des couples de figures qui offrent une variété prodigieuse d'attitudes et auxquelles le peintre a donné des noms empruntés à l'Ancien Testament. Figures de pontife, figures nues sur des archivoltes, plus de 60 petits sujets, des enfants formant cariatides, etc. Ce travail immense avait été sur l'avis de Julien de Sangallo, architecte de Jules II, estimé à la valeur de 15 000 ducats, 150 000 francs. Mais Vasari déclare que Michel-Ange n'aurait reçu, en plusieurs fois et pour tout, que 3 000 écus. Il sortit de ce labeur surhumain, tout rompu de fatigue. La nécessité où il s'était trouvé chaque jour, pendant des années, d'avoir les yeux portés en haut, avait tellement affaibli sa vue qu'il fut contraint pendant plusieurs mois encore d'élever au-dessus de sa tête un dessin ou une lettre pour le regarder ou pour la lire. Il plaisantait de sa fatigue avec assez de bonne humeur. « La peine m'a fait un goitre comme l'eau en fait au chat de Lombardie », écrivait-il dans une poésie dédiée à Giovinna de Pistoia en 1510. « Mon ventre se redresse vers mon menton, ma barbe se rebrousse vers le ciel, mon crâne s'appuie sur mon dos, ma poitrine est comme celle d'une harpie. Le pinceau, en s'égouttant sur mon visage, y a tracé un carrelage bariolé. Mes lombes me sont pénétrées dans le corps et mon derrière rétablit l'équilibre. Je marche au hasard sans que je puisse voir mes pieds. Ma peau s'étire par devant, se ratatine par derrière. Je suis tendu comme un arc syrien. Mon intelligence est aussi drôlement tournée que mon corps, car on joue mal d'un roseau recourbé. Et dans la crainte que ces fresques de la Sixtine n'eussent pas une grande valeur, il ajoutait « Défendons, Giovanni, mon œuvre, et tu défendras mon honneur. La peinture n'est pas mon affaire. Non, je ne suis pas peintre. » Néanmoins, après ce long effort de tout son être, il vécut quelques années de calme et presque de bonheur. Le vieux pape Jules II l'aimait avec sincérité, ayant, déclara Condivi, pour Michel-Ange des soins, une attention jalouse qu'il ne manifestait pour aucun autre de ceux qu'il approchait. Michel-Ange, de son côté, excusé chez le pontife de brusques violences, rachetées aussitôt par un retour de bonté généreuse. Le repos de l'artiste fut court. Léon X succéda à Jules II. Tout puissant à Florence, où il avait dès 1512 rétabli sa famille, Léon voulut orner son règne de belles œuvres d'art. Sangallo, les deux Sansovino et Raphaël avaient présenté des projets d'achèvement de l'église de San Lorenzo, bâtie par Brunelleschi, où plusieurs de ses parents étaient inhumés. Léon X demanda un nouveau projet de Michel-Ange qui, tout de suite, l'emporta sur tous les autres. Ayant appris qu'il existait à la Serravezza, dans le haut de la montagne de Santa Pietra, sur le territoire florentin, des marbres qui étaient dignes de rivaliser avec ceux de Carrare, il invita le sculpteur à s'y rendre. Celui-ci fit des objections sur la qualité inférieure de la matière, sur les difficultés du travail d'extraction, routes à tracer dans le roc sauvage, marais à traverser. Léon X n'écouta rien. Le sculpteur se résigna donc. Il passa 4 années, de 1516 à 1521, dans ce désert de Santa Pietra, à l'exploitation de la carrière nouvelle. Et tout son labeur aboutit au transport de 5 colonnes, dont 4 durent rester au bord de la mer et dont la 5e ne put être utilisée. J'ai entrepris, disait-il, de réveiller les morts, en voulant dompter ces montagnes, instruire leurs habitants, qui sont tout à fait ignares et se moquent bien de l'art. Pourtant, en dépit de tous les dangers, j'exécuterai ce que j'ai promis. Et si Dieu m'assiste, je réaliserai l'œuvre la plus belle qui, en Italie, ait jamais été faite. Peu à peu, selon son habitude, il se grisait de son projet. Il se passionnait de faire de cette façade de Saint-Laurent, l'église des Médicis, ses protecteurs, une œuvre qui fut un miroir de la sculpture et de l'architecture. Il exigea que Léon X et le cardinal Jules de Médicis, le futur Clément VII, lui signassent un traité ferme. Ce traité fut signé le 19 janvier 1518. Michel-Ange s'engageait à livrer son œuvre au bout de 8 ans. Et les peines de toutes sortes se multipliaient devant sa pensée et son labeur. D'abord, à Gênes, pour transporter ses marbres, il ne trouva point de barque. Les gens de Carrare, furieux de la préférence accordée à la carrière de Santa Pietra, avaient acheté tous les bateliers. Les barques qu'il finit par louer à Pise ne vinrent jamais à lui selon ses ordres. Il maudit 100 fois le jour et l'heure où il avait quitté Carrare. Ensuite, ses envieux le desservaient par leurs calomnies à la cour de Léon X. Celui-ci lui prodiguait, certes, ses démonstrations de sympathie. « Quand le pape parle de vous, lui écrivait Sébastien del Piombo, on dirait qu'il parle de l'un de ses frères. Il m'a appris, les larmes aux yeux, que vous avez été élevés ensemble et qu'il vous affectionne autant que dans votre jeune passé. Mais vous faites peur à tous, même au pape. » Dans l'entourage de Léon X, on se moquait du sculpteur pour ses imprudences de parole. Si son ennemi Bramante était mort en 1514, son rival Raphaël venait d'être nommé surintendant de la construction de Saint-Pierre. Une injure, plus grave que toutes les médisances, lui fut adressée le 2 février 1518 par le cardinal Jules de Médicis, le futur Clément VII, qui n'hésita pas à lui écrire « Le soupçon a été éveillé en nous que vous ne soyez du parti des Carrarais par intérêt personnel. Nous vous faisons savoir, sans vous donner d'autres explications, que sa sainteté entend que tout le travail soit exécuté avec les blocs de Santa Pietra. Si vous agissiez autrement, nous aurions une juste raison d'être sérieusement irrités contre vous. Ne montrez donc plus votre obstination en faveur de Carrare. » Toute sa force se brisa contre tant d'obstacles. À la fin de septembre 1518, il tomba malade. Le pape et le cardinal s'impatientèrent, comme lui, de tant d'efforts inutiles contre les hommes et les choses. Par un bref du 10 mars 1520, le pape délia Michel de son contrat de 1518. Michel-Ange ne reçut brusquement avis de cette rupture que par l'arrivée à Santa Pietra des équipes d'ouvriers chargées de remplacer les siens. Il fut naturellement offensé par la brutale rudesse d'un tel procédé. « Je ne compte pas au cardinal, dit-il, la perte des 3 ans que j'ai passés ici, le très grand affront que l'on m'a fait en me donnant cette commande, puis en me la retirant sans que je sache pourquoi. Et maintenant, cela peut se résumer ainsi. Le pape Léon reprend la carrière avec les blocs taillés, il me reste l'argent que j'ai en main, 500 ducats, et l'on me rend la liberté. » Il faut dire toute la vérité sur Léon X. Certes, il fut d'un dévouement très généreux envers les arts, il aima les lettres, il eut le goût d'aider dans leurs travaux et dans leurs misères les artistes qui embellissaient sa patrie. Il mérita peut-être que l'histoire, par reconnaissance, donna son nom à un siècle qu'il avait, du meilleur de son autorité et de sa fortune, contribué à ennoblir. Mais il aima aussi, et beaucoup, et même trop, sa famille. Il ne montra pas dans sa conduite politique une grande droiture, ni peut-être une grande fierté. C'est par des largesses faciles, en trafiquant de tout, qu'il s'attacha à une pléiade d'artistes. S'il protégea tendrement Raphaël, c'est parce que ce peintre lui plut par la souplesse de son caractère. Au contraire, par ses incertitudes, par ses exigences brouillonnes, il tourmenta Michel-Ange jusqu'au découragement. Ainsi, Michel-Ange aurait voulu terminer le tombeau de Jules II. Ce tombeau, isolé dans une chapelle de Saint-Pierre-Eslien, devait porter sur chacune de ses faces 4 esclaves debout, enchaînés à des termes soutenant l'entablement, et dans des niches, entre ces groupes, 2 victoires ayant à leurs pieds des prisonniers renversés. Au-dessus de la corniche qui couronnait cette décoration, 8 figures assises, 2 sur chaque face, figures de prophètes et de vertus, devaient se tenir. Il eut placé le Moïse parmi ses statues. Une pyramide, surmontée par un ange tenant un globe, devait se dresser sur le sarcophage. Il devait enfin poser en tout 40 figures, sans compter les enfants et les autres ornements. Conception de génie, travail formidable que son maître Léon X ne lui laissa pas la faculté de réaliser. Car lorsqu'il revint de Santa Pietra à Florence, il trouva l'ardeur de Léon entièrement tombée. Il resta longtemps plein de chagrin, sans pouvoir rien entreprendre, ayant été rejeté de projet en projet. Cependant, à l'Académie de Sainte-Marie-Nouvelle, dont il était un membre assidu, il signait avec ses collègues une supplique adressée à Léon X dans le but de transporter de Ravenne à Florence les cendres de Dante. Il avait admiré toujours, de toute son âme, le divin poète. Même, il avait illustré de très nombreux dessins un exemplaire de la Divine Comédie, trésor qui fut perdu dans le naufrage du navire qui le portait, entre Livourne et Civitavecchia. Léon X n'accueillit pas du tout son projet. C'est pendant ces brefs séjours que, sous le pontificat de Léon X, Michel-Ange fit à Rome qu'il exécuta, ou plutôt commença, la statue du Christ à la croix, qui lui avait été commandée par Antonio Metelli et qu'on voit aujourd'hui dans l'église de la Minerve. Il était là, meurtri par trop de déceptions. Cette statue fut achevée par un de ses élèves, Federico Frizzi, qui l'estropia. Cependant, la célébrité rapide de cette œuvre engagea François Ier à envoyer Primatis en Italie avec la mission de mouler pour lui le Christ de la Minerve, de demander une statue à Michel-Ange et de lui remettre la flatteuse lettre suivante. Signor Michelangelo, pour ce que j'ai grand désir d'avoir quelques besognes de votre ouvrage, j'ai donné charge à l'abbé de Saint-Martin de Troyes, primatis, présent porteur que j'envoie par-delà, d'en recouvrer, vous priant, si vous avez quelque chose d'excellente, faites à son arrivée, les lui vouloir bailler, en vous les bien payant, ainsi que je lui ai donné charge. Et davantage vouloir être content pour l'amour de moi, qu'il moule le Christ de la Minerve et la Notre-Dame de la Fèbre, la Piéta de Saint-Pierre, afin que j'en puisse orner l'une de mes chapelles comme de choses que l'on m'a assurées être des plus exquises et excellentes de votre art. Priant Dieu, Seigneur Michel-Angelo, qu'il vous ait en sa garde, écrit à Saint-Germain-en-Laye le troisième jour de février 1546. François de Lobépide.